Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve François Dorcival.
Cher Thierry de Montbrial, bonjour.
Bonjour.
Nous voilà réunis donc pour cette dernière émission d'éclairage sur les affaires internationales de cette année 2011. Et je voudrais que nous y consacrions l'essentiel à examiner ce qu'ont été les temps forts de cette année et puis que, dans une dernière partie, nous nous arrêtions sur quelles perspectives nous pouvons donner à l'année 2012. Et donc ma première question, c'est est-ce que cette année 2011 était une année folle ? Je veux dire par là, nous avons vu le printemps arabe. Est-ce que celui-ci n'est pas en train de se terminer en hiver arabe ? Nous avons vu la crise de la dette souveraine se transformer en crise de la zone euro. Nous avons vu ce blocage politique aux États-Unis, les incertitudes naître en Russie, etc. Bref, une année du point de vue de la politique internationale, qui est votre spécialité, une année folle. Est-ce que c'est vrai ?
Pour moi, le 21e siècle a commencé en 2008. Je l'ai écrit d'ailleurs à ce moment-là. C'est-à-dire avec la crise des subprimes, enfin 2007-2008, et la période qui va grosso modo de la chute du mur de Berlin et de la chute de l'Union soviétique jusqu'à 2007-2008, c'est une sorte de période de transition où on n'y voit pas tellement clair sur ce qui va se passer maintenant. Je crois qu'on y voit plus clair. Le 21e siècle politique commence avec une gigantesque crise économique qui n'est pas terminée. Donc effectivement, l'année 2011 a été marquée par la focalisation sur la zone euro de cette crise. Et ce qu'on appelle le printemps arabe, en fait, c'est plus vaste. Au moment où nous parlons, par exemple, avec l'évacuation des forces américaines de l'Irak, On voit bien qu'il y a toutes sortes d'interrogations qui, elles, bien pour sûr. Le coup, pouvaient être formulées dès le départ, n'est-ce pas, sur l'avenir de l'Irak. Et donc, c'est plus généralement une crise du Moyen-Orient qui elle-même, n'est-ce pas, nous ramène à la première guerre mondiale, c'est-à-dire à la chute de l'Empire ottoman, parce que tout ce qui s'est passé entre-temps, ça a été des recherches temporaires de solutions, et là nous avons l'ultime avatar de la décomposition de l'Empire ottoman.
Ou de sa recomposition.
Ou éventuellement
parce
sa recomposition.
Parce que ce que nous constatons en effet, c'est passionnant de vous entendre parler de l'Empire ottoman, parce que ce que l'on constate, c'est que en Égypte, comme en Tunisie, probablement en Libye quand ils auront des élections, on voit, même au Maroc dans une certaine mesure, on voit tous ces régimes qui sont en train de s'installer avec des élections assez démocratiques se réclamer du nouveau modèle turc dans lequel figurent, si ce n'est des islamistes, en tout cas des partis d'islam.
Alors, d'abord, n'est-ce pas, des conditions assez démocratiques, dites-vous. En réalité, d'ailleurs, vous avez vous-même parlé d'hiver arabe. Et du reste, le fameux printemps arabe est un hiver au départ. Mais enfin, passons sur ce détail. Mais nous devrions savoir, nous autres, occidentaux et européens, que la démocratie, c'est une lente construction qui passe notamment par des institutions. Donc, il faut s'attendre à beaucoup de soubresauts. Et quant au modèle turc, ce n'est qu'une des solutions. Je ne suis pas sûr que les islamistes, qu'ils soient frères ou qu'ils soient salafistes en Égypte, aient envie du modèle turc. D'où d'ailleurs le choc avec l'armée, etc. Donc, nous allons avoir, je pense, beaucoup, beaucoup de soubresauts. Il fallait une certaine naïveté, encore une fois, pour s'imaginer que la démocratie telle que nous l'entendons allait s'instaurer rapidement. Donc là-dessus, nous en sommes en fait qu'au début d'un processus. Et alors j'en profite pour dire, au moment précis où nous parlons, qui est la veille d'un vote au Parlement français sur le génocide arménien, j'en profite pour dire, pour joindre ma voix d'ailleurs à celle de notre confrère François Théré, aujourd'hui même dans le Figaro, d'abord je n'aime pas tout ce qui est délit d'opinion, d'une manière générale, c'est quelque chose d'extrêmement gênant, je pense, dans une démocratie. Et d'autre part, les lois mémorielles, car je n'arrive pas à croire que les parlements soient bien placés pour faire l'histoire. Et quand je vois, dans le cas par exemple des Russes et des Polonais, qu'ils ont réussi à mettre en place une commission pour résoudre les problèmes difficiles, n'est-ce pas, qui a notamment s'est penché sur Katyn, etc., je crois qu'il y a là une piste qui mériterait d'être suivie. Mais outre des questions de principe et le caractère largement électoraliste d'ailleurs de ces démarches, je pense que nous mettons dans une situation difficile avec un pays qui, comme vous l'avez dit, est amené à jouer un rôle de plus en plus important au Proche-Orient.
Absolument. Et alors, Nous avons abordé au cours des émissions précédentes l'évolution de la situation dans un certain nombre de ces pays. Nous avions évidemment commenté ce qu'était la guerre qui s'est déroulée en Libye, les événements de Syrie. Bon, maintenant nous savons qu'en ce qui concerne la Libye, Kadhafi est mort, son régime est enterré, etc. Et donc il y aura des élections. Nous verrons bien ce que donneront ces élections. En Syrie, en revanche, nous avons une situation instable qui se perpétue, purulente même, et dont nous ne savons pas sur quoi elle va déboucher avec une Égypte à côté, où l'on vient de voir incendier la bibliothèque Bonaparte, en quelque sorte. Et donc, cela traduit tout de même un état général extrêmement préoccupant. Donc, voir, en reprenant les choses dans l'ordre, le départ des Américains d'Irak, dans une situation incertaine. Une situation purulente en Syrie, une situation en Égypte qui n'est pas bonne. Sur quoi tout cela peut-il déboucher, cher Thierry ?
Alors, il faut, je crois, distinguer la Syrie et l'Égypte. En ce qui concerne l'Égypte, la question demeure, à mon sens, celle du type d'équilibre ou de déséquilibre qui va s'instaurer entre l'armée et les différentes composantes islamistes. Les événements des derniers jours montrent évidemment un durcissement. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à imaginer que l'armée cède complètement devant la rue. Et je pense toujours qu'il y a des formes d'accord, mais qui peuvent évoluer, entre l'armée et les islamistes, surtout les frères musulmans. Et d'autre part, une question subsidiaire est celle, évidemment, de la, comme toujours d'ailleurs, dans ce genre de situation, de la loyauté de l'armée, c'est-à-dire est-ce que l'armée suit le commandement, pour dire les choses simplement. Et la grande question, je crois, des semaines à venir va être celle-là, le rôle de l'armée. Et l'armée peut parfaitement venir à bout de manifestations comme celle de la place Tahrir, d'autant plus d'ailleurs que c'est quand même relativement localisé, ce genre de situation. Alors en Syrie, nous avons une situation très différente.
Parce que l'armée est aussi la colonne vertébrale du régime.
Oui, mais nous avons une situation très différente pour des raisons géopolitiques. Et naturellement, a fortiori, la Libye, qui est un cas tout à fait marginal, si vous voulez, dans l'ensemble de la région. La Syrie, c'est la clé. La Syrie, c'est la clé parce que, avec la Syrie, nous avons la question de problème israélo-palestinien, nous avons la question du Liban, nous avons la question de l'Iran et de son rôle au Liban, puisque c'est la voie de passage vers les Hezbollah en particulier. Donc, c'est une zone absolument critique, à quoi j'ajoute que nous avons tout le problème des minorités d'Orient, et notamment des minorités chrétiennes, qui se trouvent en jeu. Et j'ai moi-même été très frappé, il y a quelques semaines, à Paris, recevant déjeuner-débat le patriarche maronite du Liban, et qui sortait d'ailleurs de l'Élysée, et qui nous a dit d'une manière extrêmement claire, qui a même d'ailleurs choqué certains, qu'il souhaitait que Assad demeure. Il a raison, il avait d'ailleurs dit donc au président Sarkozy, il a raison, a été parfaitement clair, c'est que sinon c'est la guerre civile, il ne voyait pas d'alternative autre que la guerre civile. Et dans une guerre civile, ce seront les minorités qui en feront les frais, ce qui d'ailleurs a été largement le cas en Irak, où en effet, je crois, les deux tiers à peu près des chrétiens d'Irak ont été éliminés ou sont partis.
Tout à fait.
D'autre part, pour des raisons différentes, mais qui sont également d'ordre géopolitique, les Israéliens, par exemple, ne sont pas particulièrement excités à l'idée d'une déstabilisation du régime. Et je crois que même lorsque la Russie semble évoluer, par exemple, en durcissant un peu le ton vis-à-vis de la Syrie, ce qui est un des éléments nouveaux des derniers jours, elle ne le fait pas pour abattre le régime d'Assad, mais pour lui donner au contraire davantage de chances de survivre en faisant un certain nombre d'adaptations. Parmi les adaptations, d'ailleurs, il peut y avoir le départ d'Assad lui-même, n'est-ce pas ?
Oui,
et son remplacement par quelqu'un.
Par un militaire.
Il viendrait le bouc émissaire, voilà, si vous voulez, de l'échec et de la répression.
C'est-à-dire, au fond, ce que vous êtes en train de dessiner, c'est d'une certaine manière un scénario à l'égyptienne. Je veux dire par là Bachar el-Assad, équivalent de Moubarak, obligé de quitter le pouvoir et remplacé par la colonne vertébrale militaire.
Oui, mais ce n'est pas seulement, je crois, la colonne vertébrale militaire, parce que je pense qu'il y a une dimension sectaire au sens large dépasse largement l'aspect militaire. Mais là où il y a une différence, me semble-t-il, c'est que dans le cas de la Syrie, au fond, personne n'a envie de l'effondrement du régime. Si on regarde bien, derrière les lignes, il y a d'ailleurs un parallèle de ce point de vue-là comme tout parallèle, il faut être prudent, n'est-ce pas, avec la situation de la Corée du Nord. Personne n'a envie non plus de l'effondrement du régime nord-coréen, et même les sud-coréens. Donc je crois que le désir de stabilité, en l'occurrence, l'emporte sur le discours idéologique. Et on voit bien, en effet, on commence bien à voir partout que ce fameux printemps arabe peut déboucher un peu sur n'importe quoi. Il me semble que la situation, encore une fois, en me plaçant sur le plan géopolitique et les intérêts des principales puissances, etc., n'est pas aussi clair pour le moment en Égypte, justement.
Oui.
C'est paradoxal, n'est-ce pas ? Mais on voit bien que les États-Unis, par exemple, ont une certaine tentation islamiste, si je veux dire, ce qui n'est d'ailleurs pas nouveau. Rappelons-nous, il y a 20 ans, en Algérie, n'est-ce pas ? Puisque les Américains étaient extrêmement tentés de soutenir le FIS, le Front islamique du salut.
Oui.
Donc, tout cela est en fait assez subtil. Je pense que l'année 2012 va évidemment voir se décanter beaucoup de ces problèmes dans une meilleure solution ou peut-être dans une direction plus mauvaise, pour certains pays tout au moins.
Alors, nous allons quitter provisoirement cette région, la plus critique en effet, pour nous diriger vers l'Europe, inévitable, parce que nous avons traversé cette année avec la crise économique et financière, crise de l'endettement, que nous n'en sommes pas sortis. Naturellement, on nous avait dit, mais l'euro ne passera peut-être pas l'hiver, enfin, toutes sortes de slogans qui n'avaient aucun sens. Cela dit, il reste que là aussi, nous sommes dans une situation critique où nous nous engageons et apparemment, les mesures politiques qui ont été prises dans différents sommets ne parviennent pas à rendre de la confiance. Or, les marchés financiers, on le sait bien, ne fonctionnent que sur la confiance.
Oui, alors d'abord, en relisant mes propres analyses depuis des années et des années, on n'a pas fait ce qu'on, depuis plus de 20 ans, on sait qu'on aurait dû faire, c'est-à-dire de véritables réformes de l'État, je parle de la France là. Et ce qui a été fait est extrêmement timide. Et nous en payons d'ailleurs aujourd'hui le prix. Il n'y a pas que la France, du reste, puisque même l'Allemagne s'est laissée aller par rapport aux critères de Maastricht, etc., etc. Alors, je pense personnellement que Mme Merkel a raison quand elle dit que ce n'est pas en une réunion, en un Conseil européen, qu'on résoudra le problème. Il faudra beaucoup de conseils européens, beaucoup d'émotions, des soubresauts, des montagnes russes, si je puis dire, avant de régler les choses. Ce que le dernier Conseil européen a tout de même apporté, c'est le sentiment qu'il y avait une union sacrée, au moins sur un point, qui est de ne pas détruire la zone euro. Et ça, c'est tout de même très important. C'est-à-dire que l'idée qui avait commencé à s'instiller, selon laquelle certains pays pourraient quitter l'euro et que l'euro pourrait tout simplement éclater, ce que d'ailleurs une petite minorité de gens préconisent.
Oui, généralement des professeurs d'université.
Soit des professeurs d'université ou certains hommes d'affaires.
Oui.
Mais le mainstream, évidemment, est tout à fait différent. Donc cette idée-là, pour le moment,
est
écartée. Mais il reste encore, bien évidemment, des zones d'ombre, notamment sur les capacités d'intervention. Et je pense qu'on ne résoudra pas la question rapidement. Et il continuera d'avoir des ups and downs. Il y a un point sur lequel je voudrais souligner, c'est que j'entends beaucoup de gens parler de récession comme si une récession, comme si c'était la fin du monde. Mais une croissance continue et ininterrompue à travers les années, les décennies et les siècles, c'est quelque chose de mathématiquement impossible. Je voudrais quand même rappeler cette vérité élémentaire. Et le fait d'avoir de temps en temps des récessions n'est pas forcément la fin du monde. C'est sur des périodes un peu difficiles. Mais il y a une façon de présenter les choses comme si une récession était un drame absolu qui me paraît tout à fait exagéré et manqué de perspective.
Ça, on le doit probablement à ce supplice, en quelque sorte, des agences de notation qui font peser sur les pays européens, dont la France, la menace constante de la dégradation. Et donc, dégradation égale récession, récession égale ça coûte plus cher, etc. Et donc, ce qui est naturel, en effet, dans une économie, il y a des phases de développement, d'expansion et des phases de déclin qui rebondissent, etc. Enfin, c'est la vie, sont sans doute aggravées par ce sentiment d'angoisse, de stress qui pénètre dans nos opinions publiques, dans nos populations, à cause justement de l'endettement qui a entraîné cette visibilité extraordinaire des agences de notation qui n'existait pas il y a quelques années pour les opinions. Naturellement, ça existait pour les entreprises et les États, mais pas pour les opinions.
Oui, alors nous n'avons pas le temps d'entreprendre une discussion approfondie sur les agences de notation, mais là encore, je voudrais en appeler au sens de la mesure, parce que on confond très facilement dans l'opinion. On confond très facilement ce qui est le coup de baguette, n'est-ce pas, le coup de trick, pour dire attention, vous n'avez pas fait les réformes qui sont nécessaires pour assainir vos finances publiques, les assainir progressivement d'ailleurs, parce que tout ce qu'on demande, contrairement à ce que beaucoup en disent, c'est pas brusquement d'amener en quelques années, même en deux ou trois ans, de ramener l'équilibre. On demande de prendre des mesures crédibles qui donnent une perspective crédible pour en arriver à une consolidation, comme on dit en franglais, ou une maîtrise des finances publiques. Mais là où la confusion est fâcheuse, c'est que on en vient très vite à penser que ce sont les États qui vont faire faillite. Alors, pendant des années, si vous voulez, par exemple, dans les fonds, si vous prenez les fonds de placement, les fonds de gestion, il n'y a pas encore si longtemps, on considérait qu'il y avait ceux qui étaient parfaitement sûrs, c'était les fonds d'État, et ceux qui étaient risqués, c'était les obligations des entreprises. Maintenant, c'est tout juste, on n'arrive pas exactement à l'inverse. Si ceux qui représentent le risque absolu, ce sont les obligations, les titres émis par les États. Alors, quand on en arrive, évidemment, à considérer que l'Italie, dont on rappelle périodiquement, à juste titre, qu'il y a un excédent primaire, c'est-à-dire quand on enlève les remboursements, n'est-ce pas, des emprunts, les intérêts des emprunts, et quand on voit même la situation de la France, s'imaginer que les États italiens, français ou autres vont faire faillite dans les semaines ou dans les mois qui viennent, est tout à fait exagéré. Et c'est là où on voit qu'il y a une certaine perte du sens de la mesure et bien évidemment une crise de la gouvernance de la zone euro et plus généralement de l'Union européenne. Et pour réformer cette gouvernance, il va falloir un certain temps et malheureusement, il va falloir sans doute le maintien d'une certaine pression. Mais je suis tout de même un peu plus optimiste que je ne l'étais avant le précédent sommet Conseil européen, pour la raison que je disais tout à l'heure, c'est qu'il me semble qu'il y a tout de même une conviction qu'il faut maintenir cette zone euro.
Alors, en 2012, nous allons avoir une année électorale, puisqu'elle va être française, elle va être américaine, elle va être russe. Dans ce décor de crise que nous venons de décrire, quel est votre pronostic, si vous en avez un, naturellement vous en avez un, pour l'élection présidentielle américaine?
D'abord, les prévisions électorales sont toujours très difficiles. Je dînais il y a quelques semaines à côté du responsable de la page éditoriale du New York Times, qui passe pour un très grand spécialiste des questions électorales. Et il m'a expliqué qu'Obama allait gagner, mais il a ajouté aussitôt qu'il s'était toujours trompé dans ses prévisions. Bon, il faut avoir une certaine modestie. Je pense que les candidats que Obama va avoir contre lui a toutes les chances d'être Mitt Romney, en faisant l'hypothèse que la bulle Gingrich va se dégonfler. C'est peut-être déjà commencé, enfin, il y a quand même une bulle assez intéressante. Bon, Mitt Romney est un homme, si j'ose dire, presque trop parfait. Moi, je me méfie d'ailleurs des gens qui sont présentés comme manquant absolument de tout défaut. C'est suspect, généralement. Il a contre lui d'être mormon, même aux États-Unis. Il n'est pas sûr que ce ne soit pas le fait d'être mormon, même aux États-Unis, je veux dire, par rapport à l'aspect religieux, etc. Le fait d'appartenir à une secte, fut-elle assez prestigieuse par ailleurs, peut être un handicap. Et on voit bien, là vraiment aussi au moment où nous parlons, que Obama est en train de reprendre un peu de poil de la bête. Cela dit, c'est long. Hein, il faut encore 11 mois, il peut se passer énormément de choses. Et bien évidemment, comme toujours, la situation économique sera l'élément essentiel, beaucoup plus que la politique extérieure qui joue un rôle toujours négligeable,
toujours négligeable,
aux États-Unis. Or, surtout après avoir rapatrié les troupes.
Oui, bien sûr. Et ce que l'on constate et que l'on peut dire en conclusion de cet entretien d'hier, c'est que la situation économique aux États-Unis s'améliore.
Exactement.
Et que c'est un signe
s'améliorer.
C'est un signe de confiance, y compris pour nous, parce que nous savons que nous en avons besoin.
Voilà.
Merci à vous, Thierry.
Merci, François.
Et à bientôt en 2012.
En 2012.